9h moins le quart et c'est le moment de la revue de presse avec Virginie Pironon. Virginie, d'abord, quand un mur permet de retrouver la liberté.
Dans ce vaste monde, Pierre, on n'est plus à un paradoxe près. C'est un mur qui pose les fondations d'une vie meilleure. Des tours d'observation, un système de détection d'explosifs et de caméras de surveillance, 8 entrées principales et 300 km de long. Bienvenue à Bagdad, dossier à lire ce matin dans Ouest France sur le long retour à la vie dans les villes d'Irak, un an et demi après la victoire sur le groupe État islamique. Où l'on apprend que couper des faubourgs où Daesh a encore des ramifications, Bagdad revit. Après 3 années de travaux, le mur est opérationnel. Le résultat, écrit Anne-Sophie Lemoff, correspondante de Ouest France à Bagdad, c'est un net recul de l'émigration, une ville qui construit à tour de bras et un boom des restaurants. Anas Al-Saraf, le critique gastronomique de Bagdad, explique « Ici, chaque famille dépense plus de 20% de ses revenus dans les restaurants. C'est parce que les gens manquent d'espace vert, de maisons suffisamment grandes et d'électricité pour se relaxer et ainsi briser la routine. En moyenne, un nouveau restaurant ouvre ses portes chaque jour à Bagdad. »
Virginie, à la une de la presse également ce matin, la fièvre complotiste qui s'empare de l'Amérique.
Samedi matin, dans sa cellule du centre correctionnel de Manhattan, Jeffrey Epstein est retrouvé mort. Le milliardaire new-yorkais, inculpé pour exploitation sexuelle de mineurs, venait tout juste d'apprendre que le tribunal publiait un dossier à charge. Des centaines de pages dévoilant ses pratiques prédatrices à l'encontre de jeunes filles âgées parfois de 12 à 14 ans, réseau pédophile empiétant sur les cercles politico-judiciaires. Jeffrey Epstein ne sera donc jamais jugé et cela pose, disent en cœur les quotidiens ce matin, des tas de questions. La première posée par Le Figaro. Pourquoi, après une première tentative de suicide du milliardaire, la surveillance renforcée dont il faisait l'objet a-t-elle été levée ? Autre question, à qui profite cette mort ? Posée par Libération qui titre « L'Amérique face à son démon ». Le financier américain, écrit Alexandra Schwartzbrod, était devenu un bâton de dynamite pour de nombreux puissants à travers la planète. Il ne faudrait pas que les dossiers contenant les noms des clients soient égarés ou malencontreusement brûlés dans un incendie. Entre ses liens avec Donald Trump, Bill Clinton ou le prince Andrew, l'affaire est sulfureuse, reconnaît ce matin l'Union. Mais de là à l'assassiner dans sa cellule, le scénario est tentant, mais un peu simpliste.
On reste aux États-Unis, Virginie, avec à la une des Échos ce matin une silhouette, celle de Jeff Bezos, le patron d'Amazon.
Premier volet aujourd'hui d'une série du quotidien consacrée au fondateur de ce qui est devenu un empire. Fondé il y a 25 ans, il défie les États, écrit Nicolas Barré, et bien au-delà, transforme la société. Où l'on peut lire les leçons de leadership du fondateur d'Amazon pour lutter contre la bureaucratie. En interne, on les appelle les Jeffismes. Et autant vous dire que ces principes, Pierre, sont appliqués à la lettre. D'abord, l'obsession du client. Il est roi, et d'ailleurs en réunion, une chaise vide est là pour ne pas l'oublier. Une devise ensuite, c'est toujours le premier jour. Les têtes chercheuses doivent constamment savoir se renouveler. Et puis, il y a cette savoureuse formule, celle de la tout-team pizza. C'est un des Jeffismes les plus célèbres. Si 2 pizzas ne suffisent pas à nourrir une équipe, eh bien c'est que cette équipe est trop grosse. Pour fluidifier les rapports, mieux communiquer, il ne faut pas dépasser 6 à 10 personnes. Un mode de fonctionnement parfois troublant, résume une salariée. Amazon est un mélange étrange de start-up qui essaie de devenir un grand groupe et d'entreprise qui essaie de rester une start-up. Et puis, il y a cette obsession du contrôle des coûts. Aucune dépense n'est mineure pour Jeff Bezos, comme en 2009, lorsqu'il annonce fièrement avoir fait retirer les ampoules des distributeurs de snacks dans les entrepôts pour économiser quelques milliers de dollars par an.
Amazon, symbole de l'Amérique toute puissante, il y a 20 ans, c'est à un autre symbole américain que s'attaquait la Confédération paysanne.
12 août 99, démontage du McDo de Millau, sur lequel vos quotidiens reviennent ce matin. Ce jour-là, 300 éleveurs démontaient un restaurant de l'enseigne pour dénoncer les mesures de l'Organisation mondiale du commerce. Épisode resté symbolique de la lutte contre la viande aux hormones. Une lutte toujours d'actualité, écrit ce matin l'Humanité, pour qui le mouvement se poursuit, la bagarre également. Avant, nous nous battions contre l'OMC, dit un représentant de la Confédération paysanne. Aujourd'hui, c'est au CETA et au traité avec le Mercosur que nous nous opposons. Un rendez-vous est d'ailleurs fixé aujourd'hui sur place, pas pour une célébration nostalgique, précise l'Huma, mais bien pour donner un coup de fouet à la mobilisation. Comme en écho, dans son éditorial, le journal L'Opinion revient sur les permanences dégradées des élus ces dernières semaines. Action imputée à des gilets jaunes et à des agriculteurs, alors que 2 nouvelles permanences de députés ont été vandalisées ce week-end à Montpellier et Forbach. Le quotidien libéral avertit en approuvant à demi-mot les violences commises, une frange radicale, je cite, profite de l'état de décomposition de la classe politique pour instaurer, rien de moins, un système de terreur.
Et lui, son combat, c'est la défense de la planète.
On l'a appris ce week-end, la mort d'un jeune kayakiste français. Il voulait rejoindre l'océan Arctique à bord de son embarcation. Périple sportif et éco-responsable, mais Thomas Détailleur, 30 ans, large sourire, envie de bouger bouffer le monde n'a pas survécu à la traversée des Grands Lacs. Originaire de Villeneuve-d'Ascq, à côté de Lille, la Voix du Nord lui rend hommage ce matin. Une mentalité de dingue, l'envie d'en découdre avec tout. Son voyage visait à réconcilier l'homme et la planète. C'est ce qu'il confiait au quotidien juste avant son départ. L'objectif sera d'être en totale immersion dans la nature, mais aussi d'échanger avec la population, de donner la parole à ceux qui tentent de lutter contre la crise écologique ou qui la subissent. Son dernier post, daté du 5 août, fait part de grosses difficultés. Je cite « Deux ou trois vagues manquent de me retourner. J'abandonne en surfant jusqu'à la plage, trempée et gelée. J'ai peur de l'hypothermie. Je me change, m'enroule dans mon sac de couchage en espérant que le vent tombe. Ce ne sera pas pour aujourd'hui, espérons pour demain. » À la Voix du Nord, sa famille dit vouloir continuer son combat pour la planète.
Le combat pour la planète, pas toujours très bien compris.
Oui, un message posté ce week-end a provoqué la colère des internautes. Message posté sur Facebook qui se voulait humoristique mais qui a fait flop. Vous en parliez à l'instant, Pierre, avec votre invité. Ce week-end, Béatrice Fressenon, directrice adjointe de cabinet au ministère de l'Agriculture, s'apprêtait à prendre des vacances, sans doute bien méritées, rapporte entre autres le Bien Public, quand elle a publié ceci. Une couverture détournée de l'album pour enfants Martine. Cette fois, ce n'est pas Martine à la plage ou Martine s'engage pour la planète. Non, c'est Martine s'en branle de Greta Thunberg avec une image de notre petite Martine s'apprêtant à prendre l'avion. Tollée sur les réseaux sociaux, la fonctionnaire a tenté de se justifier. Sans compter que je sache, écrit-elle, Greta Thunberg n'est qu'une gamine médiatisée hein, dont on a encore le droit de plaisanter. Elle n'est pas le changement climatique. Béatrice Fressenon qui a fini par retirer son message. Greta Thunberg, qui demande à chacun, même aux journalistes qui viennent l'interviewer, de prendre le train, s'étranglerait probablement en lisant ceci pour terminer dans les colonnes de West France. À Deauville, les chevaux voyagent en avion. 4 chevaux sont arrivés samedi d'Angleterre à l'aéroport pour participer à des courses le lendemain. La pratique se développerait au fil des années pour le transport de ces montures, dont la valeur représente un nombre à 7 chiffres. Voilà, ça c'était l'épisode Martine fait du hippisme. Greta, il y a encore du travail.